Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi d'ouvrir cette semaine en votre compagnie dans Radio Foot. Annie Gasnier se repose un petit peu cette semaine avant le sprint final de la saison. On l'embrasse, bien évidemment, le sprint final, son suspense, ses joies et ses peines. Oui, il faut se préparer, le mois de mai rime avec trophée à soulever. Le mois de mai rime avec match à gagner, sous peine de pleurer, sous peine de laisser la première ligue s'échapper, sous peine de laisser ton quadruplé te passer sous le nez. Liverpool a-t-il dit au revoir à une partie de son rêve, le championnat d'Angleterre ce week-end? Les Reds accrochés par Tottenham et qui laissent leurs rivaux, ceux de Manchester City, prendre 3 points d'avance tout en haut du classement. En France, Nantes et Nice voulaient la coupe, duel de haut vol en finale entre Canaries et Aiglon et au Stade de France dans une ambiance fantastique. C'est bien le FC Nantes qui a brillé, qui a fait remonter les souvenirs de ces époques que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, celles qui ont vu le FC Nantes être un grand club français. Heureusement, personne n'a moins de 20 ans sur ce plateau. Ils connaissent tout ce qu'il y a à connaître. Nos consultants du jour. Bonjour Dominique Sévrac.
Bonjour, est-ce que le mois de mai rime avec Hugo Moissonnier?
Exactement.
Ah, c'est pour ça.
Exactement. Bravo. Exactement, elle est jolie celle-là, ouais. J'y avais même pas pensé. Vous voyez à quel point je ne pense pas à moi, je pense constamment aux autres.
Mais c'est constamment tourné vers le meilleur passeur de la Ligue 1, je pense.
Exactement, meilleur passeur même de l'histoire du PSG si j'y avais joué devant Di Maria. Un peu de respect s'il vous plaît. Bonjour Philippe Doucet.
Bonjour Monsieur Hugo.
Bonjour Marc Libra.
Avec, je sais pas.
Hugo.
Quel mois, je me rappelle.
Ah, faudrait peut-être chercher dans l'ancien français.
Augusto.
Dans les... Exactement. Voilà, ou en espagnol.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à
bonjour,
tous.
Bonjour Marc Libra. Il y en a un quand même qui a dépassé les 20 ans, mais c'est limite autour de cette table. Je vous présente Simon Bourtembourg. Bonjour Simon.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Grand espoir belge, parce qu'on va aussi chercher outre Quiévrin, du centre de formation de RFI, couvé dans le nid
la Coupe du Monde,
du service des sports.
On l'espère.
Et la Ligue des Nations peut-être aussi. Vous m'avez accompagné Simon dans la préparation de l'émission aujourd'hui. On salue David Finzel puisque vous le remplacez aujourd'hui. On salue aussi Laurent Salerno, le maestro, qui lui laisse sa place à Alice Ménard aux manettes. C'est l'équipe B, mais quelle équipe B, effectif constellé de stars dans le bureau de Radio Foot. Rendez-vous en fin d'émission pour un triste témoignage. Là, on arrête de sourire. Celui de Christian Gomis, c'est un défenseur sénégalais. Il évolue en Bulgarie. Il a été visé par des insultes racistes en plein match. Il s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Son message a fait grand bruit, largement relayé, y compris par le capitaine des Lions indomptables, Kalidou Koulibaly. Radio Foot, c'est parti.
Le décalage vers Cessegno, le ballon vers Huijsen, et Huijsen vient glacer Anfield. Tottenham mène 1-0 à Liverpool. Un partout entre Liverpool et Tottenham, 2 points très chers, abandonnés par les Reds dans la course au titre. Ça a plongé dans la surface et notamment Cancelo vers Raheem Sterling. Et City est déjà devant. Grealish a échappé à Kieran Trippier, Zinchenko, Foden. Et de 4, 5-0, la victoire des Sky Blues avec un doublé notamment de Raheem Sterling.
Quel talent, Alice Ménard, la queen des réalisatrices de Radio Foot. Il y a la réalité de la Ligue des Champions dans la semaine et celle du championnat le week-end. Subitement, le rouge de Liverpool est un peu moins vif, tandis que Manchester City entrevoit le grand 8, sa 8e couronne d'Angleterre. Les Reds, tenus en échec un partout à la maison face à Tottenham le samedi. Les Sky Blues qui en passent 5 à Newcastle devant leurs supporters. Le dimanche, ça nous donne 3 points d'avance à 3 journées de la fin pour Oasis sur les Beatles, puisqu'on reste dans les références musicales, pour Manchester City sur Liverpool, et j'ajoute plus 4 en termes de différence de but. Il ne reste, puisque vous aimez les chiffres, c'est très radiophonique, il ne reste que 7 unités à glaner pour le sacre du côté des hommes de Pep Guardiola, les Citizens de Manchester. La messe est-elle dite en Première Ligue, Dominique Sévrac?
Il y a un petit écart. Je sais quand même un championnat qui les reversements sont assez permanents. Dans la semaine, je pense que quand même Guardiola aurait préféré se qualifier pour la finale de Ligue des Champions. Je pense que le titre, même si le titre en Angleterre est très important, il est beaucoup plus important que dans d'autres pays. Je pense que Pep Guardiola, il a un stade de son histoire où il aimerait retourner en finale de Ligue des Champions pour la gagner. Ce qui n'est pas arrivé l'année dernière, puisqu'il a échoué en finale contre Chelsea. Donc, le risque de Liverpool de tout jouer, c'est qu'à un moment donné, il y a, une des compétitions qui lâche. Mais bon, c'est que 3 points. Moi, je dis que ce n'est pas terminé. Non, je dis que ce n'est pas terminé du tout. C'est le championnat anglais nous a montré trop de surprises pour que ça soit... pour qu'on soit définitif.
On va écouter les deux entraîneurs concernés, Pep Guardiola côté Manchester City et évidemment Jürgen Klopp côté Liverpool.
Notre destin est entre nos mains. Cela signifie que nous devons gagner tous nos matchs et nous allons les gagner, nous allons le faire. Je veux arriver ici pour le dernier match contre Aston Villa avec la possibilité de conserver le titre. Avec Liverpool qui a perdu des points samedi, nos prochains matchs sont devenus des finales pour nous. Si nous sommes capables de gagner, alors peut-être que nous pourrons arriver lors du dernier match à domicile avec la possibilité de gagner un deuxième titre consécutif.
Les deux équipes ont encore 3 matchs à jouer. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on peut remporter nos rencontres. On n'a aucune prise sur la manière dont City va aborder les siennes. Et tant que notre adversaire n'est pas hors d'atteinte, on y croit toujours.
Un peu de langue de bois, de la confiance, c'est bien normal. On ne va pas lâcher dans le sprint final. Comme le rappelait Dominique Sévrac, Philippe Doucet, un quadruplé est en jeu pour Liverpool, là où Manchester City ne vise que le championnat. Liverpool, on a aussi la Coupe, on a aussi la Ligue des Champions, en plus de la Première Ligue, sachant qu'on a déjà remporté la Coupe de la Ligue anglaise.
Mais le championnat suffit à lui-même. Contrairement à ce que dit Dominique, le championnat pour Liverpool, c'est essentiel. Ils ont traîné pendant 30 ans pour le regagner enfin.
En 2020.
En 2020, ils adoreraient. C'est pas question d'échanger. Je sais pas ce qu'ils prennent aux journalistes de sans arrêt et aux médias et aux supporters de parler sans arrêt. Moi, je préférerais ça. Des clubs comme Liverpool, Manchester City, ils veulent gagner les deux, évidemment. Et il n'y a pas forcément de hiérarchie, il n'y a pas besoin de sous-peser ce qui est plus, ce qui est mieux, ce qui est moins bien. Guardiola était sincèrement très heureux après le 5-0 parce qu'il a vu son équipe avoir une très très bonne réaction, ce qui n'était pas une évidence après l'élimination quand même, qui était vraiment un échec compte tenu du fait qu'ils étaient vraiment à deux doigts de se qualifier. Et il a vu son équipe se relever, il en était très heureux. Et Klopp, pour lui, c'est une vision complètement différente parce que oui, il y a la finale de la Ligue des Champions, ok, mais là, il a envie d'être champion. Quoi. Il a 2 semaines pendant lesquelles il a envie d'être champion. La finale de la Ligue des Champions, il y pensera plus tard. Je suis navré, mais c'est comme ça que ça se passe. L'Angleterre, c'est un pays où on sait mettre la hiérarchie des titres, elle est établie en Angleterre. La Coupe, c'est très important en Angleterre. Le championnat, oui, c'est capital.
Force, c'est ça la force et la richesse du football anglais. C'est oui. Que tous les titres sont prestigieux. Alors, gagner une Coupe, c'est presque suffisant.
Absolument.
Pour sauver une saison.
Ça sauve une saison. Après, l'autre vraie richesse, c'est qu'ils ont des effectifs qui leur permettent de tout jouer. Ça, c'est quand même un gros avantage.
Mais on va en parler des effectifs. Simon Bourtembourg, peut-être un point sur les calendriers à venir. On a entendu parler du dernier match contre Aston Villa pour les Citizens. 3 matchs à jouer de chaque côté en championnat. Il y en a d'autres également côté de Liverpool. Le point, donc, sur les échéances à venir.
C'est ça, le calendrier il est plutôt à l'avantage des Sky Blues. Ils doivent encore affronter Wolverhampton mercredi, et puis West Ham, et puis enfin Aston Villa à domicile pour le dernier match de la saison. Peut-être le match du titre pour les Sky Blues. C'est donc 3 finales, disait Pep Guardiola. Il y a aussi 3 matchs en Première Ligue pour Liverpool, mais les Reds sont encore engagés sur 3 fronts, notamment la FA Cup, où ils seront en finale le week-end prochain face à Chelsea, et puis la Ligue des Champions, et la finale le samedi 28 mai face à Madrid. Ce sera au Stade de France.
Est-ce que la voie, elle est complètement découverte selon vous pour les libres, entre guillemets, pour les joueurs de Manchester City? Moins de matchs à jouer, un objectif clair, de l'avance au classement, comme à la différence de but, Marc Libra?
Déjà, City a fait le boulot tout au long de la saison, puisque même s'il y a un petit sas décompression en janvier-février, ils sont quand même encore devant. Aujourd'hui, les enjeux sont totalement différents. Liverpool, aujourd'hui, par rapport à sa finale, ne peut plus penser comme Manchester City qui ne joue plus rien. Le championnat est primordial en Angleterre. Vous leur dites une Ligue des Champions ou le championnat, on va se rappeler que Liverpool n'a pas pu fêter son titre en 2020. Ils n'ont pas pu le fêter. Hein. Ils n'ont pas fait la fête avec les supporters. Ils n'ont pas vécu ça du début jusqu'à la fin.
C'était le Covid qui a
cassé la fête. Donc on l'aura supprimé, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, les intérêts des uns et des autres sont tellement différents. City peut jouer décomplexé quoi qu'il arrive parce qu'ils ont pris une claque. En revanche, Liverpool, eux, ils doivent jouer sur tous les tableaux. Et la différence entre deux équipes, c'est qu'il y en a un qui a pu faire tourner son effectif tout au long de la saison, c'est Guardiola. Il a pu alterner certains joueurs, comme sortir Grealish, sortir Sterling, des joueurs. Alors du côté de Liverpool, c'est plus compliqué. C'est souvent les mêmes joueurs qui jouent. Et malheureusement, son turnover, alors l'effectif, est-ce qu'il y a... Oui, il y a Henderson, il y a des joueurs qui peuvent rentrer et faire la différence, mais ils ne sont pas du même niveau que les joueurs de City.
Il y avait eu un gros turnover avant la demi-finale retour, me semble-t-il, de Ligue des Champions, avec notamment Matip, Gomez, qui avait pu jouer du côté de Liverpool. On avait un peu plus,
Il avait fait beaucoup tourner. De changements en Ligue des Champions. Ça, c'est le luxe.
Mais c'est vrai que par rapport au match de la semaine dernière, donc la demi-finale retour, deux changements côté Liverpool, trois changements côté City, avec le même écart entre les matchs, mais sachant que du côté de Liverpool, on affrontait Tottenham et pas Newcastle. C'est pas non plus la même adversité. Est-ce que c'est vrai que c'est un peu là que peut se jouer le titre, le quadruplé? Est-ce que c'est là que se trouve un peu la faiblesse de Liverpool?
Je trouve que Liverpool a un effectif un peu moins riche que City en nombre et même en qualité. Je trouve que Guardiola peut quasiment faire deux équipes, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour Klopp, notamment par exemple Salah et Mané, pour moi sont indispensables.
En fait, ou c'est latéraux, équipe. Si t'as pas tes latéraux.
C'est latéraux, donc c'est ça me semble un peu plus juste pour Liverpool, mais en même temps c'est le fonctionnement de Klopp, parce que Klopp ça fait depuis 2016 qu'il est là, ou 2015.
Depuis 2015.
Et ça fait 7 ans que je vois qu'il fait très peu tourner en fait. Il se base toujours sur un groupe de 16-17 joueurs, alors que l'ami Guardiola a beaucoup plus l'habitude de faire du turnover, quoi. Il me semble, hein. Comme ça, j'ai pas des chiffres.
C'est plus tellement vrai. Liverpool est beaucoup. Maintenant, ils ont un effectif. Pendant des années, oui, c'est progressivement, il a enrichi l'effectif.
Et par exemple, Luis Diaz qui est encore buteur ce week-end.
Vraiment, ils ont 5 attaquants de haut niveau.
Et le plus du mercato, ouais. Luis Diaz.
Pas pris au départ. Ils ont quand même 5 attaquants de haut niveau. Ils ont milieu de terrain, c'est riche aussi. Ils ont 5 de haut niveau pour 3 postes.
Comment tu remplaces Salah et Mané, par exemple?
Bah, ils les ont remplacés. L'autre fois, en Ligue des Champions, ils ont joué sans Salah ni Mané.
Oui,
un match retour.
Le score était t'étais qualifié.
Voilà. Bah, tu n'étais pas qualifié. Tu étais en très bonne position. Benfica, évidemment. Oui. Non, tu étais en très bonne position, évidemment. Mais ça veut dire qu'il peut faire sans. Parce que, bon, si ça fait rentrer Firmino, Luis Diaz.
Alors, toujours pour parler des effectifs, Ruben Diaz, Kyle Walker, John Stones, c'est pas mal, ne seront plus là sur cette fin de saison du côté de Manchester City. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça rééquilibre? Ça fait quand même des absences, notamment en défense, même qu'en défense d'ailleurs. Ruben Diaz, John Stones, là, vous avez une défense centrale qui saute. Et Kyle Walker, peut-être l'un des meilleurs latéraux du monde.
Ruben Diaz a été absent aussi pendant près d'un mois et demi. Ou deux mois, il a été absent. Ils ont su compenser.
Mais c'est là qu'ils ont perdu quelques points.
C'est là qu'ils ont perdu quand même, parce que pour moi, du moment où ils l'ont recruté, c'est vrai qu'on a vu la différence par rapport à ce qu'ils sont capables de faire.
Émeric Laporte, c'est moins bien quand même.
On est entièrement d'accord, mais c'est-à-dire que devant toi, t'as toujours Fernandinho qui peut venir t'aider, ou couloir gauche, ou dans l'axe, ou devant toi. Enfin, il y a toujours des joueurs.
De toute manière, vous n'avez plus de match tous les trois jours, là.
Il n'y a plus de match tous les trois jours. Et cette équipe-là est prévue pour vous supprimer, pour vous enlever le ballon. Donc, tu n'es pas à te dire, la porte va se prendre des vagues à répétition dans la figure. Donc, dans ce mano à mano où ils ont 3 points de plus, je veux dire que pour moi, c'est la voie royale pour aller au bout.
Mais vous négligez quand même le calendrier, parce que les déplacements à Wolverhampton et West Ham, c'est quand même plus compliqué que le calendrier de Liverpool, qui globalement va faire 9 points. Enfin, je pense qu'il n'y a
pas de débat. Mais qui a d'autres matchs et d'autres échéances à gérer.
D'ici là, ils ont la finale de Cup, c'est tout. Bon, c'est pas un match.
Philippe, on va se rappeler que
c'est pas mal.
Non, mais c'est pas
ça met un peu la pression.
Il y a Liverpool avant sa demi-finale, à 2-3 matchs, donc je me rappelle de West Ham. Face à West Ham, ils ne doivent jamais gagner. Liverpool, ils vont gagner 1-0, c'est un hold-up. Et ils étaient dans le dur un petit peu, hein, on se rappelle.
Oui, mais il y a toujours ça dans une saison, Marc.
Oui, mais ça montrait pas mal de choses. Là, ce week-end, face à Tottenham, tu t'es fait un petit peu jongler aussi, tu vois, face à une très bonne équipe. Et ce genre de choses, pour ça, dire, ouais, Wolverhampton, ce genre de match, je pense que City est. Ils sont tels aujourd'hui, ils ont pris une telle claque. Bon, c'est quoi, on va laminer tout le monde. Est-ce qu'on dit avant le match face à Newcastle qu'ils revenaient bien, ils vont en mettre 5?
J'aurais pas pensé.
C'est pour ça que je joue la qualif.
On parle quand même d'un match nul à domicile, ça fait un peu tâche dans le sprint final. Est-ce que ça peut être un tournant, ce match nul contre eux? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez passer de candidat au quadruplé à un peu un syndrome Bayer Leverkusen, pour parler d'une vieille époque?
Il n'y a que ceux qui sont engagés dans rien qui risquent rien.
On parlait de qui là encore?
Non, mais voilà, eux ils sont sur 4 tableaux. Oui, il y en a un qui est déjà rempli. La Coupe de la Ligue, ils l'ont remporté. Mais moi, je leur dis déjà bravo, mais c'est pas fini. Encore une fois, c'est pas fini. Et moi, j'ai hâte de voir ces trois derniers matchs. Et j'ai, 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 j'ai hâte d'un suspense. Et vous avez donné la différence de but parce que ça peut être
plus 5 maintenant. Non, ouais, plus 5 maintenant.
Oui, mais ça peut être parce que ça peut.
Moi j'avais plus 4, mais oui, on va revérifier.
On va chipoter.
On va revérifier. Ça se joue pas à plus 15.
Je suis d'origine marseillaise. C'est pour placer
un peu Marseille. Non, mais je vous le dis, c'est plus 5.
Voilà. Et normalement, dans un quart d'heure, c'est plus 20.
Et ça peut se finir, ça peut se finir au point, donc sur le même nombre de points. Donc...
Quel escroc, il est du VAR, hein. c'est pas Marseille.
J'ai été adopté, adoubé par le peuple marseillais.
Et vous savez, Simon,
on a compris qu'il n'était pas de Lille.
Simon Bourtembourg, il y a des clichés qui collent à la peau de nos entraîneurs stars, Guardiola et Klopp. L'un serait plus fait pour les championnats, l'autre plus pour les coupes. Et pour l'instant, ça se vérifierait presque dans ce sprint final.
Bah, ça se confirme. Hein. Guardiola, un as en championnat. Il a déjà été 3 fois champion d'Espagne avec le Barça, 3 fois avec Munich, 3 fois avec Manchester City aussi. Et en Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué. Il y a les titres avec le Barça qui remontent un peu. Et la finale perdue l'année dernière face à Chelsea. Klopp, lui, s'illustre beaucoup en Europe, déjà avec Dortmund, où il était arrivé jusqu'en finale de la Ligue des Champions en 2013. Et puis avec les Reds, lorsqu'il arrive en 2016, il remporte l'Europa League face à son ancien club, Dortmund. En 2019, c'est le titre suprême pour Liverpool qui remporte la Ligue des Champions. Et cette année, les Anglais sont à nouveau en finale de la Ligue des Champions. Jürgen Klopp devient en fait le 4e entraîneur à se qualifier pour une 4e finale de Ligue des Champions. Ses prédécesseurs, Sir Alex Ferguson, Marcelo Lippi et l'inévitable Carlo Ancelotti.
Il a aussi perdu une finale de Ligue Europa contre Unai Emery.
Contre Séville, exactement.
En 2016, en sortant de Villarreal, il a un peu pris sa revanche sur Unai Emery.
Et il a donc cette étiquette d'entraîneur de coupe. Et de coupe, mais
avant,
Guardiola, c'est la régularité. Ouais, c'est
avant de gagner
championnat.
La Ligue des Champions.
On fait vraiment ce qu'on veut avec les chiffres. On a vraiment raconté tout ce qu'on veut. Pendant des années, on nous a raconté que Klopp perdait toutes ses finales et que donc c'était vraiment un mec pas fait pour les coupes.
C'est vrai qu'il perd 2013, 2016, 2018.
On a gagné une entre-temps. Bon. Non, il a peut-être gagné une Coupe de la Ligue aussi. Il a gagné d'autres
coupes. Il y a aussi des championnats. 2 fois champion d'Allemagne en 2011 et 2012.
Ah, mais non, championnat
devant le Bayern en plus. C'est
non, mais on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Ce sont deux grands entraîneurs qui ont tous les deux un immense palmarès. Et Klopp, effectivement, vous avez raison de le souligner, il l'avait également avant, parce qu'avoir un palmarès avec Dortmund, c'était quand même une vraie performance face au Bayern. Le Bayern était très fort à l'époque aussi. Et il a été 2 fois champion devant le Bayern. Même s'il perdait des finales de coupe, je pense que ça classe le personnage. Ce sont deux immenses entraîneurs, sans doute différents plus par leur style de management, leur style de jeu, que le palmarès, où finalement, ils gagnent énormément tous les deux, même si Guardiola gagne un peu plus, je suis désolé de le rappeler.
Est-ce que le style de Guardiola en championnat fait que c'est presque un peu trop dur, tellement...
Un peu trop dur comment, c'est-à-dire
C'est-à-dire pour les adversaires, il y a quelque chose d'un peu totalitaire, quelque part, dans le style de Guardiola, il ne laisse pas vraiment respirer les adversaires comme la concurrence, là où il peut avoir des défaillances sur un match couperé en coupe. Je sens que je brasse de l'air. Hein.
C'est difficile parce que là, Tottenham a accroché Liverpool. On va se rappeler que Tottenham, dans la première journée, va battre City. C'est difficile à dire parce que je suis d'accord avec Philippe. On a souvent dit que Klopp ne gagnait rien, il perdait toutes ses finales, il en a gagné une. Ah, ça y est, revirement de situation. Mais je pense que City, aujourd'hui, on se rappellera de l'ère Guardiola parce que. Il y a une façon de jouer. On se rappellera de l'ère Liverpool avec Klopp. Il y a une façon de jouer. Et à contrario, est-ce qu'on va se rappeler de Carlo Ancelotti sur sa façon de jouer? Je ne pense pas. Vous voyez la différence?
C'est... Ah non, mais sur l'ensemble de sa carrière, personne n'oubliera
Carlo
Ancelotti.
La carrière, on comptera tous les titres. Par contre, tu diras, comment il jouait là, il joue avec Benzema. Là, avant, il jouait... Ah oui, d'accord. Donc, c'est des entraîneurs qui vont marquer le football. Et Ancelotti, parce qu'il est cité dans les grands qui ont gagné beaucoup de titres, lui, c'est le palmarès qui est énorme.
En gros, vous voulez dire que le football, c'est riche et complexe.
Non, mais
c'est pour ça que Radio Foot existe.
Guardiola, il va laisser une trace dans l'histoire du foot.
Bien sûr.
Mais c'était pas une manière de le blesser.
Ah, bien sûr. Et surtout, c'est très agréable de regarder City avec les défauts que ça comporte. C'est-à-dire que le match aller, par exemple, contre le Real, quand il gagne 4-3, tu te dis comment ils font pour encaisser 3 buts, quoi.
Parce que non, retour, on s'est dit la même chose d'ailleurs. comment ils ont pu prendre 3 buts,
mais moi je pense qu'ils ont perdu sur le match aller en fait, cette double confrontation.
Ouais, mais enfin, ils ont gagné 2-0 aussi.
À une minute près, ils sont qualifiés.
Alors là, le problème c'est qu'il faut qu'on avance. Si vous commencez à refaire le match d'hier, on va vraiment pas s'en sortir.
Non, mais c'est pour ça que c'est des matchs tellement extraordinaires, celui de Real Manchester City, qu'il faut se garder de leçons et de. C'est des matchs extraordinaires qui sortent complètement de l'ordinaire. C'est comme le jour où Manchester United a gagné cette Ligue des Champions contre le Bayern à Barcelone en 99. Bon, deux minutes avant, le Bayern non seulement menait 1-0, mais ils avaient tiré trois fois sur le poteau. Enfin bon, bon voilà, il ne faut pas refaire l'histoire, évidemment, et notamment de ces matchs-là qui finalement en déduire des grandes leçons sur le football anglais ceci, le football espagnol ceci, le Real ceci. Attention, ça peut être remis en cause dans trois jours. Donc attention.
Football total engagé.
Et le point commun entre 99 et 2022, parce qu'il y en a un, c'était la victoire en Coupe de France du FC Nantes.
Ah bah, génial.
L'inspiration du moment, voilà, c'est
fantastique.
Sauf que
c'était 2000, non ?
Les deux. 99-2000.
Il y a pénalty. Pénalty. Pénalty pour le FC Nantes.
Une main signalée dans la surface.
Complètement le dire.
On joue depuis 20 secondes de jeu. Le numéro 10 nantais pour ouvrir le score après seulement 2 minutes de jeu. Il s'élance et c'est tiré au milieu et c'est but. L'ouverture du score du FC Nantes. La tribune devant lui en extase. Les Canaries mènent 1-0. Les Canaries lancent cette 105e finale de la Coupe de France. Et on se dégage côté nantais. C'est fini. Le FC Nantes remporte sa 4e Coupe de France. Le FC Nantes s'est imposé 1-0 sur un but de Ludovic Blas. Le FC Nantes remporte son premier trophée depuis 21 ans.
Dans la voix de Tom Rossi, à peine nantais, à peine. Le charme de la Coupe de France est intact. Pour une fois, Paris, le PSG, n'y était pas. Deux clubs de province, comme on dit, sont montés dans la capitale, sa banlieue nord, plus précisément Saint-Denis, Nantes. Et Nice, deux clubs au surnom d'oiseaux, deux historiques de la Ligue 1 qui se faisaient face à face sur la pelouse du Stade de France. Alors était-ce le Stade de France ou bien la Beaujoire, tant les Nantais étaient chez eux samedi et dans cette ambiance jaune, verte et magnifique tout simplement. Leurs Canaries ont soulevé la coupe, succès du Nantes de Simon Moses, le Nigérian sur Nice 1-0, vous l'avez entendu, pénalty concédé par l'Algérien champion d'Afrique. Boudaoui, transformé par Ludovic Blas après la pause. Avant le match, cette ambiance, vous y étiez, l'un de vous y était ce samedi au Stade de France. C'est vrai qu'on les a vus monter. Hein, dans le 93, ces supporters nantais se dirigeaient vers le Stade de France. C'est une ambiance absolument incroyable.
Les à côté, j'étais dans Paris et j'ai croisé énormément de supporters des deux camps et c'était génial, quoi. C'est-à-dire que samedi, c'était la veille d'un jour férié. La ville était plutôt calme. On était encore en période de vacances scolaires.
En même temps, le dimanche est assez souvent férié quand même.
Oui, mais là, c'était pas férié.
Ouais, à Paris, en région parisienne, il peut y avoir pas mal de mouvements.
Et là, il y avait un monde pas possible de Nantais et de Niçois qui étaient festifs. Beaucoup de familles. Alors, je sais qu'il y a eu quelques incidents, mais moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment des groupes d'amis, des groupes de familles ensemble. Déjà aux couleurs, sur les Champs-Élysées, à Gare de Lyon, à Bastille, vraiment dans tous les quartiers. Et c'était très, très sympa, quoi. Et après, de la télévision, l'ambiance disait du Stade de France, qui est un stade calme et un peu difficile.
Pour ne pas dire froid.
Froid et difficile
à ambiancer, voilà. À animer.
Et ben, j'ai trouvé ça merveilleux, quoi. Et visiblement, beaucoup de la part des Nantais.
Est-ce que le fait que pour la première fois depuis longtemps, on est justement pas le PSG dans le coup, ça.
Depuis 2014.
Ça peut. Voilà, 2014 en Coupe de France, il y avait des finales de Coupe de la Ligue sans Paris, mais est-ce que ça.
Il faut pas blâmer le PSG. Bon,
non, non, c'est pas contre eux, mais.
Mais il est vrai que.
On retrouve quelque chose un peu vintage,
oui,
si je
puis dire. Et puis il est vrai que quand le PSG était là, évidemment, on avait l'impression que globalement le PSG allait gagner. On distribuait déjà les places européennes en disant bon, de toute façon, le 6e sera en Coupe d'Europe, puisque de toute façon le PSG gagnera la Coupe, etc. Et puis, du coup, oui, au niveau ambiance, peut-être que ça a diminué un peu les choses, mais je crois que plutôt que blâmer le PSG, il faut mettre en évidence que ce sont deux clubs qui ne sont pas venus depuis très très longtemps dans des finales de Coupe. Qui n'ont pas été à la noce de toute façon, quoi qu'il arrive, depuis fort longtemps dans toutes les compétitions, et qui du coup il y avait un appétit fantastique, et notamment du côté nantais, parce que c'est un club immense qui a laissé vraiment une trace dans le jeu, qui a laissé une trace dans le football français, et puis qui était.
On a sorti les madeleines de Proust, ne vous inquiétez pas, c'est l'heure du thé, vous allez les goûter.
Qui a été en déshérence, qui a fait combien d'années en Ligue 2, deux passages en Ligue 2 dans les dernières années, dans les années 2010, fin des années 2000 et 2010.
Donc c'était un beau cadeau que cette finale, c'était... cette possibilité de remporter une Coupe de France. Marc Libra, vous avez longtemps été bloqué au port de la finale en France.
Oui.
En Écosse, c'est autre chose. Vous en avez disputé une. Vous auriez aimé ça monter avec le maillot bleu et blanc de Marseille.
Oui, bien sûr.
Jusqu'au Stade de France ou au Parc des Princes.
Quand on est jeune joueur, on rêve de la Coupe de France.
Je l'ai vu avec mes parents devant la télé. Donc après, ce qui fait plaisir, et c'est qu'on voit de la joie. Alors quand Paris la gagne, peut-être qu'on est un petit peu trop parisien pour voir ce qui se passe, mais on a vu des scènes de liesse, de joie à Nantes qui sont importantes. Rappelez-vous, alors on va reparler de Saint-Étienne, c'est une coupe de la Ligue, la fête. En Marseille, une coupe aussi, c'est la fête. Après, je pense que c'est un petit peu arrogant de toute la presse. Enfin, tout le monde à Paris dit ouais, c'est pas intéressant parce qu'ils viennent exprès, ils viennent. Ouais, c'est un petit peu dommage parce que je pense que c'est quand même très beau, c'est très joli. Je pense que Paris ne sait pas savourer ce genre de choses. On s'en prend à Paris. Pourquoi ils sont pas là? Parce qu'ils n'ont pas été bons et qu'ils sont pas allés au bout. Voilà. Après, ça fait toujours plaisir de voir des scènes de joie. Le match était plaisant, vraiment. C'était assez ouvert, c'était plaisant. Voilà, c'était pas fermé.
On peut en parler d'ailleurs de ce match, la victoire elle est méritée pour Nantes ?
Pour moi elle est méritée puisque Nice n'a pas forcément frappé au but, Nice n'a pas su faire la différence. Nantes a subi pendant 25 premières minutes où ils ont su faire le dos rond et puis après ils ont tenté leur coup, ils se sont mis à jouer. Mais cette équipe elle correspond parfaitement à leur entraîneur. Moi j'ai croisé Antoine Camboiré quand il était joueur, un poète, hein, un très bon poète. Vous n'avez pas le droit. Il finit avec le nez en sang. Le nez, il est à gauche, l'oreille à droite, l'œil comme ça. Mais il rentre sur le terrain 20 secondes après et puis il va mettre des coups de tranche à tout le monde. Mais c'est ce que c'est fait Antoine.
Parce que c'est vrai que Nantes n'est pas à longtemps été associé à une autre idée du football, pour le dire.
Mais moi, j'ai connu cette époque-là où on courait après le ballon.
Il y avait des Antoine Camboiré quand même. Hein, il fallait vrai. Quand même défendre. Hein. Il y avait deux, trois joueurs
voilà,
comme ça.
Il y avait des joueurs qu'il fallait. Yepes, quand il y avait Yepes aussi, c'était un combattant. Mais c'est vrai que cette équipe-là, elle correspond à son coach et je trouve que c'est assez justifié.
Tout en étant joueuse, hein, quand même, moi, je trouve que les intentions offensives de Nice m'ont énormément déçu, comme depuis pas mal de temps en championnat. Et je pense que Nice a perdu le coche de
On parle d'une équipe qui était candidate au podium il n'y a pas si longtemps, sixième de Ligue 1, qui est en train de
Il y a des gens comme Dolberg, Delors, Guéry, qui a quand même des joueurs intéressants offensivement. Et je trouve que Galtier n'en fait rien, personnellement. Hein. Mmh. Donc je suis très déçu de l'animation offensive lors de cette finale et depuis quelques matchs en championnat. Et donc pour moi, c'est la récompense des intentions offensives de Camboiré, qui n'est pas que ce guerrier qui gueule et qui tape dans les poubelles pour remotiver. C'est aussi un esthète parfois.
Alors justement, parlons-en d'Antoine Camboiré, responsable de OPG, grand homme, figure de la belle saison nantaise. 9e pour Nantes, c'est excellent compte tenu du contexte.
Des
dernières saisons, exactement.
Il est venu pour les aider. Après le magnifique Domenech.
Passage Domenech, arrivé en plein marasme en fin de saison dernière pour sauver Nantes. La mission est plus que réussie et on parle de mission. Le mot, il est choisi, il est pesé. Je vous propose d'écouter Antoine Camboiré.
Truc de malade. J'ai tout imaginé sauf ça. Je viens un rêve éveillé. Ouais. Je l'ai dit aux joueurs. Ouais, ils m'ont rendu heureux comme jamais j'aurais pu l'imaginer. Quoi. Ouais, c'est un truc de fou ce que je suis en train de vivre. Quoi.
C'est votre plus beau titre, Antoine ?
Oui, mais c'est forcément mon plus beau titre parce que c'est avec mon club de cœur. Moi, je dois tout à ce club. Et mon petit frangin, Christian Carambeu, il m'a dit, mon nom canac, c'est Coulonne. Il m'a dit Coulonne. Maintenant, ça y est, on a payé notre dette avec le club.
Voilà, Camboiré, enfant du club, c'est magnifique, une magnifique déclaration d'amour à son club et peut-être le point d'orgue pour un technicien, on l'a dit, parfois caricaturé pour ses manières un peu viriles, mais au palmarès plus que respectable, au parcours plus que respectable, Simon.
Tout à fait, on entend l'émotion d'Antoine Camboiré au coup de sifflet final parce que Nantes, c'est vraiment le club de ses débuts. C'est là qu'il est arrivé en Ligue 1 avec notamment une deuxième place au classement en 1986. C'est là aussi qu'il a découvert la Coupe de l'UEFA en atteignant même les quarts de finale en 1986. Et donc il a retrouvé ce club qu'il a connu à ses débuts. L'émotion était forte parce que pour lui, quand il a repris les Canaries, ils étaient dans un état très compliqué. On se souvient que Nantes a notamment terminé à la 18e place la saison dernière, donc barragiste de Ligue 1,
Toulouse,
aujourd'hui 9e et champion, et gagnant de la Coupe de France, donc c'est un beaucoup de chapeau pour lui.
Et une petite revanche pour le premier entraîneur de l'ère qatarienne du PSG, ouais. qui avait fait du bon boulot, mais qui n'était pas assez clinquant et qui après a été caricaturé comme l'entraîneur produit Ligue 1 un peu bourrin.
Viré en tête de championnat.
Ouais. Exactement.
Un
titre perdu à la fin.
Ancelotti, hein,
qui prend sa place. Remplacé par Ancelotti. Ouais. Après une victoire à Saint-Etienne.
Et donc jamais, ça vous fait plaisir pour votre pote, on peut l'appeler comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez bien.
Oui, puis c'est quelqu'un d'extraordinaire, de très gentil. Mais je pense qu'on a souvent du mal à aimer ce genre de joueur. Quand je vois que la plupart des gens n'aiment pas Giroud, parce qu'il n'est pas beau. il n'est pas beau avoir joué. Mais Camboré, moi j'ai croisé des joueurs qui étaient vraiment très moches, mais par contre, quand vous les aviez sur le dos, William Prunier n'était pas très beau avoir joué. Par contre, quand vous avez William Prunier, et aujourd'hui, c'est, on nous délecte, oui, mais il faut savoir bien jouer, il faut être beau, ceci, cela. Je pense qu'il faut être très efficace, lui a été très pragmatique, il a su faire avec ses joueurs, il a relancé des joueurs comme Blas, comme Marcus Coco, qui n'étaient pas très bien, qui n'allaient pas très bien. Il a su leur redonner leur chance. Et je pense que fondamentalement, ils aiment vraiment leur coach. Parce que pour arriver à ce genre de choses et se battre comme ça, c'est qu'on aime son coach. Et quand on aime un coach, ben je crois que c'est la plus belle chose que l'on peut
et
faire.
Non, Antoine Camboiré, il a aussi ce parcours de vie qu'on peut rappeler. Oui. Il vient, entre guillemets, de l'autre bout du monde, d'un point de vue métropolitain, d'un point de vue parisien. Et il est français, Kanak, de Nouvelle-Calédonie. Et bon, il en parle dans ses interviews ces dernières heures. Il en parle souvent. Ça a aussi forgé son caractère, comme Christian Carambeu, le champion du monde.
Bien sûr, la culture est un peu différente là-bas. Les aînés sont beaucoup plus respectés qu'en métropole. Il y a le chef de famille, c'est vraiment très important. C'est une culture, c'est un autre monde, même si c'est la France, c'est très très loin. Et il a toujours respecté ses racines kanak. Et puis je m'aperçois quand même que c'est un homme qui a. Il dit qu'il est. C'est son plus beau titre parce qu'il est formé à Nantes et qu'il vient de Nantes. Mais à Paris, c'est aussi une idole. C'est Casque d'Or, c'est l'homme qui a marqué le but contre le Real Madrid.
En Coupe de l'UEFA, pas en finale, mais Coupe de l'UEFA contre Madrid.
Il y a quand même. C'est rare d'être une légende dans plusieurs clubs comme ça. Il est pas. Et puis il l'a dit furtivement, Marc, mais il a quand même succédé à un fossoyeur du football, Raymond Domenech. Le club avait failli mourir et lui, il est arrivé et aujourd'hui, regardez, un an après, il les emmène en finale de la Coupe de France. Donc c'est fort.
Et il a gagné.
Un homme qui compte dans la grande histoire, la riche et belle histoire du football à Nantes.
Henri Michel, le capitaine du FC Nantes, voudrait bien remporter enfin la Coupe de France puisque les Nantais ne l'ont jamais remporté. Donc Oscar Muller donne le but qui délivre complètement l'équipe nantaise. Va très certainement remporter pour la première fois cette Coupe de France.
Petit chargé par Endoram, c'est le but! But de Jaffé Endoram. Le Football Club de Nantes mène 1-0.
Oui, c'est fini. L'équipe de Nantes a gagné la 82e finale de la Coupe de France.
Loco, Pedros, de nouveau Loco, et but! But de Patrice Loco d'entrée de jeu.
L'histoire du FC Nantes, elle est riche. Les moins de 20 ans auront du mal à le croire, mais il s'agit tout simplement de l'un des plus grands clubs français, Simon Bourtembourg.
C'est ça, tout à fait. C'est un club historique de l'Hexagone. Et cette saison, ils sont désormais octuple champion, gagnant de la Coupe de France. Octuple champion de France, pardon.
Bon, il l'était déjà.
Et quadruple, ça c'est, voilà, c'est nouveau, vainqueur de la Coupe de France. Deux fois aussi finaliste de la Coupe d'Europe. Donc Nantes, c'est un club qui ne dit pas grand-chose aux gens, aux plus jeunes comme moi, mais c'est un club qui a compté en Ligue 1. Et maintenant, j'ai un peu découvert leur palmarès et donc je m'y intéresse. Et ils reviennent un peu sur le devant de la scène avec ce trophée en Coupe de France, 22 ans après leur dernier.
Et vous avez déjà un t-shirt de quelle couleur ?
Vert.
Ah, ici, mais au-delà du palmarès.
Non, c'est un vert assez nantais.
Au-delà du palmarès, qui est impressionnant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Nantes, c'est une référence en termes de jeu. C'est un club marquant à plusieurs titres.
Le jeu à la nantaise.
Et le jeu à la nantaise. Alors, Arribas, des années 60-70, l'entraîneur. Suodo, 80-90.
Denouex.
Et puis Denouex pour les derniers titres gagnés avant cette Coupe de France, et notamment deux Coupes de France, de 99-2000, et puis un titre de champion avec notamment Salomon Lembe, le Camerounais, en 2001. C'est une école du beau jeu.
Bah pour faire vite, ça se rapprocherait un peu de Barcelone. C'est le jeu à une touche. C'est
C'était
le jeu
avant
mouvement.
Barcelone, d'ailleurs. Ouais, voilà. Avant que Cruyff...
Ce qui est en mouvement, c'est le ballon. Ce qui doit bouger, c'est le ballon. Après, les joueurs, s'ils ne courent pas, ça ne marchera pas. Hein. Mais voilà, c'est cette espèce de ballet féerique avec un ballon qui est toujours en mouvement, avec ce fameux but quand ils sont champions à la fin des années 90.
Alors en 95, on a entendu le but de Loco
sur la touche,
le ballon ne touche plus terre.
Et Loco, Welleck et tout ça, voilà.
Alors, ils n'ont jamais eu la popularité qu'ils méritaient en France parce que c'était, comment expliquer, d'abord, c'est pas la qualité de jeu n'est pas forcément ce qui est le plus populaire, et puis c'était un... il y avait un petit soupçon d'arrogance parfois dans cette spécificité, dans cette qualité de jeu qui était défendue à tout craint.
Parce que c'est un club de joueurs maison, beaucoup de joueurs
aussi,
formés
aussi.
Qui brillaient, et notamment les champions 98, champions de 98, donc beaucoup à Nantes, Deschamps, de Sailly.
Absolument, c'est des effectivement façonnés à la nantaise, chez soi, etc., qui ne réussissaient pas toujours d'ailleurs à l'extérieur, tellement le jeu était très spécifique, y compris en France. Et donc, ils n'avaient pas du tout la popularité de Saint-Etienne, par exemple. Saint-Etienne a été hyper populaire et Nantes ne l'était pas. Mais par contre, c'était une attraction partout en France. Tout le monde, on reçoit Nantes samedi, tout le monde prenait ses places parce qu'on savait qu'on allait voir du foot. Il y avait Nantes et Monaco qui étaient vraiment les deux équipes. Monaco de façon plus, selon les années, c'était plus variable. Mais il y a eu toute une période où c'était Nantes et Monaco, les deux équipes qu'il fallait aller voir, parce qu'en qualité de jeu, c'était celle-là.
Quelques penseurs du football ont dit que c'était du football de gauche. Je vous laisse méditer là-dessus. Il n'y a rien de football de droite, c'est un football de gauche.
Ça, c'est intéressant. Mais alors là, si on lance le débat là maintenant, on est encore demain. Mais
il y a des thèses du goût là-dessus. Il y a des thèses des universitaires. Qu'est-ce que le football de droite? Qu'est-ce que le football de gauche? En tout cas, Nantes, c'était le football de gauche.
C'est intéressant. Alors vous l'avez affronté, ce football de gauche, Marc Libra. Vous étiez à Marseille, c'était une autre idée peut-être.
Oui, quand on a croisé.
Encore qu'il était ministre de gauche, votre président.
Vous êtes sûr? Bon, on parle d'autre chose. Non, mais quand on sait qu'on allait croiser le Nantes de 95, de cette génération-là, on savait qu'on allait courir, on allait souffrir automatiquement. Mais le problème de Nantes, c'est que ça n'a pas duré, malheureusement. C'est-à-dire que
si, ça a duré depuis le milieu des années 60 jusqu'à
on va parler d'une autre époque. En 2000, qu'est-ce qu'il y a en 2000? On a des téléphones, on a des vidéos, on a des blogs, et là, à partir de là, des gens vont découvrir le football. Tu as raison ce que tu dis, 70. Oui, mais pour beaucoup, le téléphone. Le football a démarré 2000, 2005. On avait commencé à voir des choses. On a vu l'évolution. Et c'est pour ça que malheureusement, on va retenir les titres de Lyon d'affilée plutôt que peut-être le jeu. Alors oui, le but face au PSG.
On se souvient de ces millions d'Arrigo Sacchi quand même. Il n'y avait pas les téléphones.
Mais parce qu'on a 50 piges.
Oui, mais il y a
une jeune génération aujourd'hui. S'il va pas sur YouTube, il n'aura pas ça.
Simon, il peut aller sur des
YouTube. Simon, tu es allé voir ça?
Voilà, je voulais pas dire
la vérité.
Ce qui est quand même intéressant.
Non, tu vois, regarde.
Il est pas allé. Il va aller voir Arrigo Sacchi ce soir.
Ce que je retiens dans le discours de Max, c'est que c'est vrai que le déclin du Nantes moderne, c'est la deuxième partie des années 2000, une descente en 2007, puis une autre en 2009. Quitta Valdemar Quitta.
Ah bon, c'est Serge Dassault.
L'homme d'affaires franco-polonais qui rachète le club en 2007. Et c'est le début quand même d'un cycle pénible pour Nantes. Alors il y a une remontée en Ligue 1, ils sont en Ligue 1 depuis 2013, mais avec des résultats plutôt un jeu pratiqué qui n'a plus rien à voir avec la grande époque.
C'est des mauvais choix qui datent d'il y a 20 ans. Hein. C'est Serge Dassault, c'est Valdemar Quitta, c'est des mauvaises personnes aux mauvaises places. Rudy Roussillon, qui était le président avant. Donc Serge Dassault, en fait, c'est des espèces de financiers qui sont là pour gérer un petit peu la nouvelle mode de ces dirigeants en France, qui sont un peu des oui, on a l'impression de voir un notaire et pas du tout un amoureux du football. Et donc, il y a une succession de mauvais choix. Quitta, par exemple, il a enchaîné les entraîneurs. Après Gourcuff, il a mis donc Domenech. Ça n'a aucun rapport. Oui, quelle est la cohérence entre Gourcuff et Domenech?
Le club qui avait une espèce de faconde comme ça, quelque chose d'un peu pas noble, mais une élégance certaine, est devenu un joujou de milliardaire.
En fait, il faut comprendre que c'était un club qui n'était pas basé sur des dirigeants ou autres. C'était un club qui était basé sur une espèce de cellule, de coopérative.
C'était famille.
D'élite et familiale autour de la formation et de la formation et de l'équipe première. Et à partir du moment où ça s'est un petit peu affaibli à ce niveau-là. Alors, il y a eu d'abord les finances qui se sont affaiblies à années 90. Déjà, en fait, la dernière très belle génération, c'est 95, elle naît de problèmes financiers. On n'est pas loin du collapse total, de la banqueroute. Et du coup, les jeunes sortent et à nouveau sort une génération fabuleuse, les Pedros locaux, etc. Et finalement, ça dure 5-6 ans et après, la chute se confirme. Mais aussi parce que le foot a évolué. Aujourd'hui, Simon, il regarde que les titres et il a dit, mais non, pourquoi? Nantes, ils n'ont pas de titre, c'est qui?
C'est vrai.
Mais nous, on allait voir Nantes.
C'est la vérité.
On savait qu'on allait voir du beau football.
C'est pas tout à fait vrai. Le Barça n'a pas le droit de gagner en jouant mal, pareil. exemple.
Non, mais le Barça, il y a une histoire.
Et Manchester City, c'est pas.
Non, non, juste mais, non, mais on allait voir Nantes, même si c'était 7ème, c'est pas grave. On savait qu'on allait voir football de qualité.
Quelqu'un comme Bielsa, il propose du beau football qui ne gagne pas. Donc on a encore ce genre de.
Et Nantes, en fait, a perdu la bataille de la formation aussi parce que l'argent est arrivé. Et l'argent, ça veut dire que les meilleurs jeunes n'allaient plus à Nantes. Alors qu'au début, si vous prenez dans les années 80-90, un jeune, il allait à Auxerre, à Nantes ou à Sochaux. Et encore Auxerre parce qu'il donnait un peu d'argent.
Saint-Étienne à l'époque.
Et un peu Saint-Étienne. Mais surtout Sochaux, Nantes, Auxerre, qui étaient les trois grands centres de formation. Au-delà de ça, maintenant que c'est de l'argent, bah, du coup, c'est PSG.
On verra. On va en rester là sur Nantes. On verra si ce titre, cette Coupe de France, marque une renaissance. Sauf que.
Je sais que ça n'a rien à voir.
Quitte à Comboiré, ça ne s'entend pas très bien. Donc on n'est pas sûr qu'il y ait une grande continuité. Le dernier mot.
En 88, j'ai le choix entre Saint-Étienne, Auxerre, Nantes et Marseille. Et je vais à Marseille. Vous voyez ce dont on parlait, j'ai eu quatre clubs qui sont venus vers moi, dont les quatre clubs, et j'ai choisi le voisin marseillais.
Bon,
j'ai bien fait.
C'était pas si mal, oui, effectivement.
J'ai bien fait, bien sûr.
Et allez, dernière remarque pour nos plus jeunes auditeurs.
Je sais pas si Libra, la Nantaise, ça. Je pense qu'il m'aurait
mis dehors. Ça aurait mis un certain caractère.
Ah, il m'aurait mis dehors.
Et puis sachez que Dimitri Payet est peut-être le dernier grand joueur sorti du centre de formation de Nantes. Voilà, ça donne
carrière,
un point de
référence. Ah oui, qui joue encore, pardon.
Qui joue encore pour nos plus jeunes auditeurs. Allez, refermons ce Radio Foot sur une note malheureusement négative. Un scandale raciste en Bulgarie, un joueur sénégalais insulté par un adversaire. Rien que ça, Simon Bourton-Bois.
Oui, Christian Gomis, 23 ans, footballeur sénégalais, défenseur central au Lokomotiv Plovdiv en première division bulgare. Et comme beaucoup d'autres joueurs noirs auparavant, il a été victime d'insultes racistes lors d'un match ce week-end. Des insultes qui descendent souvent des travées des stades. Ça a récemment été le cas pour le gardien Mike Maignan lors d'un match de Serie A en Italie. Ou parfois sur les réseaux sociaux, les trois joueurs anglais Saka, Rashford et Sancho, malheureux lors de la séance de tir au but de la finale de l'Euro, s'en souviennent encore. Cette fois-ci, Christian Gomis a lui directement été insulté sur le terrain par l'un de ses adversaires.
Ce défenseur, Petko Ganev, il est en train de se pousser avec mon collègue. Moi, je suis intervenu pour calmer la chose un peu. J'ai mis mes bras entre les deux et il y a Petko Ganev qui vient vers moi et qui me dit en gros « pars, sale singe ». Sur le moment, j'ai cru être fou, quoi. Je lui ai demandé de répéter, il me l'a répété. L'arbitre, il est arrivé et je lui ai expliqué la situation. L'arbitre, il m'a dit que c'était rien du tout. Qu'il fallait jouer. Mais l'arbitre a complètement fermé les yeux là-dessus, ce que je réalise toujours pas, quoi.
Donc pas de réaction de l'arbitre, ni même de ses coéquipiers qui sont restés sur le terrain. Mais lui, le capitaine des Lions de la Teranga, Kalilou Koulibaly, s'est exprimé sur les réseaux sociaux.
Franchement, c'est important. Ça m'a fait plaisir quand j'ai vu son tweet. Parce que dans les moments comme ça, je trouve que c'est important d'en parler. Qu'il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Et qu'il faut qu'on se soutienne pour avancer, pour plus que ça se reproduise.
Le Lokomotiv Plovdiv qui s'est exprimé sur ses réseaux sociaux également, mais il n'y a aucune enquête qui n'a été ouverte, que ce soit par les clubs ni même par la Fédération bulgare de football. Christian Gomis, lui, il est en fin de contrat et il se projette plutôt loin de la Bulgarie. Il rêve d'un retour en France, lui qui a joué avec l'équipe B du PSG. Et l'incident de ce week-end n'y est pas pour rien.
Première fois qu'on me dise ça personnellement, oui. Mais après, dans les tribunes, quoi, c'est pas la première fois que j'ai entendu. Directement comme ça, oui, c'est la première fois. Vis-à-vis d'un joueur, oui. Ça laisse à réfléchir. Parce que surtout que je suis en fin de contrat cet été, quoi, ça ne me donne pas envie de rester ici, franchement.
Des actes de racisme qui touchent malheureusement la plupart des championnats européens. Mais cette fois-ci, Christian Gomis ne semble pas prêt de laisser passer cet acte-là.
Christian Gomis qui a été joint par Martin Guèze. Beau travail de notre collègue Martin Guèze. Votre réaction à ce témoignage, Dominique Serac?
Les tribunes qui ont des paroles racistes, ce n'est pas l'apanage de la Bulgarie. En revanche, que ça se passe sur le terrain par un adversaire, là, je pense qu'en France, ça ne pourrait pas arriver. Mais ça pourrait arriver quand même dans la partie ouest de l'Europe, donc il faut se méfier. Ça pourrait arriver en Italie, ça pourrait arriver...
Ça peut être intéressant, parce que vous dites, c'est une leçon peut-être qu'il faut retenir, c'est ne pas forcément pointer du doigt, dire les pays de l'est de l'Europe sont arriérés, entre guillemets, l'ouest de l'Europe.
Surtout pas, moi j'ai trop d'exemples de racisme en France qui ne me semblent pas être le pays le plus arriéré. Bon, après, il y a des scores récents électoraux qui nous prouvent qu'il y a parfois des partis racistes au deuxième tour. Mais donc, toujours est-il que moi, ce qui me choque le plus... qu'il y a des gens idiots et racistes, ça je le découvre pas. Ce qui me choque, c'est la réaction de l'arbitre, en fait. C'est-à-dire que lui, qui est censé savoir ce qui est grave et pas grave sur Terre, et dans le jeu de football, qui lui dit, écoute, il s'est rien passé, quand il lui répète les propos scandaleux qu'a tenu l'adversaire, en fait, s'il n'est pas là pour les aider, c'est le problème, quoi. Parce qu'en fait, la règle, elle est simple, il faut interrompre le match. Et donc voilà, les équipes rentrent au vestiaire, et comme, les, comme l'ont, l'ont fait le PSG et Başakşehir quand il y a eu un incident en Ligue des Champions. Quoi. Soit les joueurs prennent l'initiative, soit l'arbitre... bon, là, c'était un incident contre l'arbitre. Donc, en Ligue des Champions.
Oui, on rappelle un arbitre assistant qui était accusé par un adjoint de l'entraîneur camerounais, Uebo, d'avoir utilisé un terme raciste. C'était un arbitre roumain d'ailleurs, donc voilà. Plutôt de la partie voilà. Centrale.
Disait, c'est le noir qu'il faut sanctionner. Au lieu de dire c'est l'adjoint, il désignait la personne par sa couleur. Et donc, voilà. Ou alors l'arbitre peut, dans les règlements, interrompre le match et tout le monde, on renvoie tout le monde au vestiaire et on entérine soit le score, soit on le fait sur tapis vert, je ne sais pas exactement quelle est la règle. Mais là, l'arbitre a fait preuve de lâcheté.
Et ce qui peut être souligné, c'est que bon, alors peut-être l'arbitre s'est dit on met la poussière sur le tapis, sauf qu'il y a les réseaux sociaux. Et pour un joueur, je ne vais pas dire perdu, mais c'est vrai que le championnat bulgare ne bénéficie pas d'une exposition incroyable. Ce n'est pas un joueur de premier plan, même si c'est un Sénégalais et qu'on s'intéresse aux joueurs africains sur RFI. On l'a un peu découvert, ce Christian Gomis. Vrai. Mais avec les réseaux sociaux, eh bien, il a de l'écho. Je n'ai pas les chiffres de son tweet, mais c'est impressionnant. Et surtout Kalidou Koulibaly qui d'un coup vous donne un écho incroyable, capitaine napolitain du Sénégal.
C'est malheureux qu'il faut que ça soit Koulibaly qui fasse bouger les choses de son canapé à Naples. C'est ça le problème. C'est qu'il y a, si vraiment tout cela est juste, à un moment donné, il faut être capable de sanctionner, mais on ne sanctionnera pas parce qu'on n'en a rien à faire. Ce genre de choses, ça arrive tous les week-ends, dans tous les niveaux et dans tous les championnats. Là, malheureusement, il est surpris. C'est la première fois qu'il entend ça. Je pense qu'il a dû entendre d'autres choses beaucoup plus fleuries des tribunes aussi, parce que ça descend des tribunes. Qu'on soit en amateur, en Ligue 2, en Ligue 1, ça arrive dans tous les sens. Malheureusement, il n'est pas assez important aujourd'hui pour avoir de l'écho et pour dire il faut arrêter le match. Et l'arbitre, malheureusement, on se met... Alors, je ne dis pas qu'il a raison ou pas. J'ai juste que s'il n'a pas entendu, vous vous rendez compte, il n'a rien entendu. Si un joueur vient vous dire ça... Si on valide sur quelque chose, si c'est vrai et si c'est pas vrai, si un joueur va lui mentir. Non, donc c'est là, ce niveau-là, où moi j'aimerais...
Il dit pas tu mens, il lui dit, il s'est rien passé.
Mais ça, on sait pas tout ça. Tu vois, dans l'euphorie, oui, je suis d'accord.
Le témoignage qu'on a.
Dans l'euphorie, il y a tellement de choses avec l'expérience, il y a tellement de choses dans l'euphorie. Est-ce qu'il a entendu ça, pas entendu ça? Aujourd'hui, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Mais chaque année, on fait des émissions, une saison en RFI, on a 2-3 sujets comme ça, racistes, à tel endroit, en Italie.
Ah, particulièrement Kalidou Koulibaly, et ça Naples, tout
le temps. Et le problème ne se réglera jamais avec ce qu'on a vu récemment aussi, on parle des élections. Je ne sais pas si ça va s'arranger, malheureusement.
Bah là, c'est un peu triste comme constat de se dire que
c'est
un phénomène qui ne peut pas s'améliorer.
Ouais, moi, je ne suis pas aussi pessimiste, puisque finalement, on s'aperçoit quand même que de plus en plus de gens parlent. Ça, ne serait-ce que ça, c'est quand même important. Peut-être qu'en une autre époque, Christian Gomis, il serait dit bon.
En même temps, à qui se serait-il
Je suis là tout seul en Bulgarie. Bon, bah, je m'écrase et puis on n'en parle plus. Aujourd'hui, ça parle. Les réseaux sociaux ont ce côté positif. Il y en a plein de négatifs aussi, hein, et notamment sur le chapitre du racisme. On ne va pas dire que les réseaux sociaux soient.
Non, mais si vous êtes en Bulgarie, vous n'êtes pas dépendant des médias bulgares pour vous exprimer. Voilà.
Exactement. Ce qui peut être une aide. Là, en l'occurrence, c'est un côté très positif, c'est que ça permet de sortir les informations. Ça permet de témoigner, ça permet... Alors c'est peut-être triste que il faille que Koulibaly s'empare du sujet.
Est-ce que son club a fait quelque chose
pour
lui?
Non, c'est bien, communiqué. Ouais.
Non,
à part un communiqué, ils n'ont pas dit on l'aide, on fait un truc.
Bon, ça c'est peut-être à suivre, on n'est pas...
Mais c'est bien que Koulibaly participe.
Bien sûr que c'est bien.
Il donne l'amplification.
Un écho supplémentaire, oui.
Mais c'est dommage que ça soit lui de Naples qui fasse, alors qu'il y a des gens qui étaient présents.
Il est capitaine du Sénégal.
Tout à fait.
Oui, mais il fait son taf, en fait.
Non, mais tout à fait.
Je trouve qu'il sait bien.
Et au niveau mondial, donc c'est encore mieux, parce que ça donne un éclairage mondial. Après, effectivement, il faut, là où je suis aussi pessimiste quelque part que Marc, c'est après, il faut qu'on prenne des mesures quelque part. Il faut que ce soit appliqué. Il faut que la FIFA ait une implication beaucoup plus forte aujourd'hui sur les incidents qui se déroulent pendant les matchs. Sur le principe, il y a les règlements. Sur le principe...
Il y a les campagnes de communication.
Il y a plein de choses faites. Après, il y a.
Non, c'est énorme.
Oui, non, mais il y a les campagnes de communication. Après, il faut que ça se matérialise quand il y a un problème.
Voilà, le match commence, on dit non au racisme.
Il faut agir, combattre le racisme, pas seulement lui dire non dans des campagnes de communication. Merci, Marc Libra.
Jamais
trop loin, si vous voulez. Merci, Dominique Sévrac. Merci, Philippe Doucet. Merci, Simon Tambour. Et merci, Alice Ménard. On se retrouve demain.
C'est dans son contrat ou.